Bonjour à tous et re-bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode de Palabre avec Lynn, du coup toujours notre invité de l'épisode précédent.
Toujours présent.
Du coup sur cet épisode-là, vu qu'il est réalisateur de clips de rap, on s'est dit que ça pourrait être pertinent de parler de hood movies ou de films de banlieue plus généralement. Donc pour introduire un peu le sujet, peut-être pour les personnes qui s'y connaissent pas forcément ou les plus jeunes d'entre vous, je voulais rappeler un peu ce que c'est que la culture hip-hop et comment ça a commencé rapidement. Bon bah je veux pas expliquer ce qu'est le rap, mais en tout cas dans la culture hip-hop, il y a cinq piliers qui sont généralement représentés. C'est le rap, le graph, la danse, le DJing et le beatbox. À la base, c'était une culture un peu underground, on va dire, et du coup, les premiers films sur cette culture-là, ça servait un peu à mettre ça en avant. C'était vachement vu, on va dire, comme un effet de mode, je pense, quelque chose qui n'allait pas durer. Le premier exemple, ce serait Wild Style, donc du coup, c'est un film qui a un style très documentaire, très réaliste, on va dire, même si ça reste de la fiction. Mais toutes les personnes qu'on voit dans ce film, ils vivent vraiment ces trucs-là, et c'est scénarisé, certes, mais c'est pas très éloigné de leur véritable mode de vie. Et du coup, c'est des films qui mettent en avant le graph, le rap, la danse, le DJing, le beatbox, comme je le disais, mais aussi, du coup, les altercations avec la police, la discrimination et ce genre de choses. Dans la foulée, il y a deux, trois autres films, du coup, qui développent un peu les mêmes trucs, donc je les cite rapidement, c'est Beat Street, Breaking et Crush Groove.
Moi, c'est des films que j'ai découverts quand j'ai communiqué un peu avec toi, ouais, sur le sujet du podcast qu'on est en train de faire. Donc, je connaissais pas, ouais, avant. Mais je pense que c'est important de connaître, de voir où ça a commencé.
C'est ça.
Parce que là, on est d'accord, c'est années 70, voire 80.
80, non, début 80. 80, ouais. Okay. Et c'est des films qui sont très peu connus, même encore maintenant. Mais je recommande au moins Wild Style pour son côté vraiment très historique. C'est vraiment le premier. Il y a vraiment ce côté, c'est presque pas de la fiction, tellement il faut décrire un peu cet univers-là. Ce qui va vraiment permettre au rap aussi, à la culture hip-hop en tout cas, de prendre l'importance que ça a pris dans les années 80. Il y a une émission qui s'appelle Yo sur MTV Europe, donc je tiens à le dire, la toute première émission sur le rap dans le monde. C'est une émission française qui s'appelait Yo, du coup, et qui invitait des rappeurs, qui parlait un peu de la culture graph, danse et compagnie.
Cocorico.
Et du coup, aux States, ils ont repris cette émission-là pour l'appeler Yo MTV Raps, et du coup pour inviter des grands rappeurs de l'époque, Afrika Bambaata et compagnie. Ça a duré pas mal d'années, et du coup ça a vraiment mis ce truc-là sur le devant de la scène. Et c'est pas pour rien que je parle de MTV, parce que MTV, du coup, ça a vachement créé toute cette culture clip de rap, les codes de ce type de truc.
C'est en partie grâce à eux que le clip est aussi important maintenant dans la communication des artistes. Ouais.
Pas que pour le rap, mais pour se rendre compte un peu du phénomène que le rap est devenu, il faut bien comprendre que tout est devenu rap dans les années 80, c'est-à-dire que les Tortues Ninja rap, Mario et Luigi rap, Sonic rap et Freddy Krueger fait un featuring dans un clip de Will Smith où il rap également.
Dans les années 80 ou 90?
80.
Ah ouais, ok.
Donc c'est... parce que peut-être plein de gens ne le savent pas, Will Smith c'est un des premiers, il fait partie de la première génération de rappeurs avec un rap beaucoup plus accessible pour la famille, sans vulgarité, sans violence.
Ouais, un peu le rap tout public, quoi,
c'est
ça. De l'époque, ouais.
Et voilà, donc faut bien se rendre compte que le rap, ça prend toute la culture américaine sur cette décennie-là, mais c'est vachement vu comme un effet de mode qui va disparaître, blablabla. Et du coup, ce qui va vraiment ancrer cette histoire de film sur la culture hip-hop, le premier truc où on passe à l'étape suivante, de manière à faire un film sérieux aussi, même s'il y a de la légèreté, qui va permettre de parler de problématiques sociales et compagnie, c'est Do the Right Thing, de Spike Lee. Vous l'avez vu, celui-là, ça vous parle?
Oui. Ouais.
Vous voulez en parler,
Moi, je l'ai vu très récemment, du coup.
Ouais.
Parce que je commence un peu à m'intéresser à la filmographie de Spike Lee, et c'est vrai que je peux comprendre que ce film-là a dû bousculer un peu les mentalités et tout à l'époque. Ouais. Je trouve que le lien que t'as... Enfin, tout à l'heure, tu parlais d'un film en disant que c'était presque documentaire. Je trouve que quand tu regardes ce film, et que tu connais un peu l'histoire de Spike Lee, etc., tu comprends que, bah, en soi, il a voulu presque faire un documentaire. Dans le sens où, vraiment, c'est des vrais faits de société qui arrivent et qui justement, peuvent toucher tout le monde. Qui ont connu, quand je dis tout le monde, c'est évidemment les gens qui habitaient à New York un peu dans ces années-là, etc. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains aux États-Unis qui ont dû se reconnaître là-dedans, et pas forcément que aux États-Unis. Je l'ai vu très tard, du coup, je l'ai vu assez récemment, et du coup, il m'a pas mal bousculé.
Bah, c'est un très très beau film, ouais. Et en plus de ça, c'est pas juste sur le ghetto, la culture noire et tout, vu qu'ils prennent aussi les immigrés italiens et tout ça.
Ouais, grave. Ouais.
Et les différentes problématiques qu'il y a entre ces communautés-là. Et c'est aussi un film qui a beaucoup de légèreté, je trouve. C'est un film qui est drôle, c'est presque une comédie, ouais, en soi. Il arrive bien à équilibrer aussi les moments dramatiques.
Il y a un docu/making-of qui est disponible sur YouTube, je crois, et qui dure même presque plus longtemps que le film,
okay,
et qui est vachement intéressant parce que ça reçoit toute la préparation, tu vois, même les répétitions avec les acteurs, la lecture du scénario, etc. et comment ils ont, je crois qu'ils ont carrément recréé, enfin ils ont carrément construit des façades de buildings, etc. pour recréer ce faux quartier, et c'est vachement intéressant, je vous le recommande. C'est...
Carrément,
ouais. Je me souviens plus, c'est autobiographique de Spike Lee ou...
Non, mais
je pense qu'il y a des parties qui... Enfin,
ouais. Sûrement.
Il l'a pas vendu comme tel, mais je pense qu'il y a des trucs qui...
Et puis oui, au début de sa carrière, il jouait pas mal dans ses films aussi. Et du coup, bah, il va en faire toute une carrière, il va pas faire que ça évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup de ses films qui parlent des familles noires dans ce genre de quartier à l'époque, dont certains qui sont un peu autobiographiques également. Et du coup, ce film-là, c'est ce qui va ouvrir un peu la voie à tout... À toute la culture hip-hop aussi des années 90 qui va suivre. Je pense à des films comme Boys in the Hood avec Ice Cube, il y a Juice avec Tupac, Menace to Society, Friday Company. Et ça correspond avec le grand boom de l'histoire du hip-hop, la rivalité East Coast, West Coast, Tupac et Biggie et compagnie. Donc c'est le moment où ça ancre ça dans la culture comme un truc qui va rester, quoi, finalement.
Ouais,
un vrai impact social aussi.
La décennie 90, c'est là où le rap s'est confirmé, quand même.
Enfin, ouais, c'est l'âge
pour moi, quand on parle du rap américain, c'est cette décennie-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'étais étonné, tu sais, que tu me dis, c'est dans les années 80, tout devient rap. Moi, le
en fait,
rap, c'est associé...
Hip-hop, on va dire, dans les années 80,
oui, oui,
plus ouais, que rap,
oui, oui.
Dans les années vraiment 90.
Aussi sur la danse et sur le graphe,
ouais,
et
tout ce truc-là.
Ouais. Ouais. Tout le monde connaît, je pense pas avoir besoin d'expliquer Tupac et compagnie. Et,
bah, Léon, peut-être. 50 Cent, il y a Tupac. Ils sont tous les deux dans le chiffre.
Pas sur la même génération. Mais justement, en parlant de 50 Cent, dans les années 2000, du coup, ça, y a un espèce de shift, parce que finalement, il y a beaucoup moins de films sur la culture hip-hop, dans le sens où la plupart des films ne parlent que de musique. Donc je pense à 8 Mile, c'est beaucoup plus des biopics, en fait, Notorious, le film sur Biggie, et le biopic, du coup, de 50 Cent, également. Et du coup, c'est souvent que des biopics de rappeurs, et c'est que des trucs qui parlent de musique, et du coup, on oublie un peu plus le côté danse, graphe et compagnie, et c'est beaucoup plus des blockbusters, on va dire, entre guillemets. Du coup, tout ça pour amener à l'époque moderne, parce que c'est vrai que c'est un genre qui a pas mal stagné pendant cette quinzaine d'années-là. Et là, du coup, on en arrive, bah déjà, il y a eu Straight Outta Compton, le biopic de N.W.A. qui a fait beaucoup de bruit, qui correspondait au troisième album de Kendrick Lamar et également au nouvel album de Dr. Dre que tout le monde a attendu pendant 20 ans. Donc ça a été un gros mouvement culturel, on va dire, qui est revenu à ce moment-là. Et du coup, bah, Moonlight... gros film d'auteur de Barry Jenkins qui est très très beau et qui pour le coup a les couilles de partir encore un peu plus loin, qui raconte du coup l'histoire d'un jeune mec de cité qui deal de la drogue et tout, mais qui vit ça à travers son homosexualité, ce qui est un sujet extrêmement tabou dans ces milieux-là. Donc c'est un film absolument magnifique que je recommande. Vous l'avez vu peut-être, Moonlight? Ça vous parle?
Pas du tout, mais je vois très bien à quoi ça a l'air de ressembler, et c'est vrai que c'est un film que j'ai raté. Et
moi je l'ai vu et je pense que tu adorerais Léandre. Bah, il est magnifique, hein.
Ouais,
la musique de Nicolas Brittle et tout.
Ah, par contre, oui, la musique, j'ai écouté toute la BO.
Elle est hyper connue, la musique.
Oui, elle est connue.
Et le film est vraiment trop, trop beau. Je voulais en parler un petit peu dans la petite liste de films que tu as évoqué. Au fur et à mesure des années, on part du film de banlieue, du hood movie, pour aller vers des films qui, comment dire, mélanger des genres et puis aller vers plus de sensibilité. Et Moonlight, c'est le paroxysme de ça, quoi.
Ouais, genre, totalement.
C'est vraiment parler de...
C'est en adéquation avec son époque aussi, parce que je pense que tu ne peux pas faire un film comme Moonlight dans les années 90.
Bah,
ou alors il serait moins bien reçu.
Et peut-être même qu'encore aujourd'hui, film, ça fait polémique.
Bah, même je pense que quand il est sorti, Moonlight, il a dû avoir du grabuge.
Bah, surtout que ces films-là, ils ont toujours été marketés pour ce type de personnes.
La street, quoi.
Et là, soudain, Moonlight, ça bouge un peu les codes.
Il est vraiment sublime.
En plus, j'ai vu la feinte aux Oscars qui a fait parler un peu de lui.
Le fameux. Ouais. Et du coup, c'est accompagné par plein de films qui essaient de parler de problématiques sociales, beaucoup plus du coup de violences policières et trucs comme ça. Je pense à Fruitvale Station.
Ryan Coogler.
De Ryan Coogler, tout à fait. Donc, très beau film aussi. Donc, c'est des films pour le coup qui racontent des histoires vraies, mais c'est pour mettre en avant ce genre de petites. De problématiques-là. Donc, ça c'est pour balayer un peu 40 ans de. Même 50 ans. D'ailleurs, on fête les 50 ans de la culture hip-hop cette année. Ça faisait sens de faire cet épisode-là cette année aussi. Pour ça, jouer les anniversaires, le hip-hop. Donc j'ai un peu balayé ça vite fait, mais on approfondira des sujets juste après. Juste, je vais passer sur la France, et la France, c'est beaucoup plus rapide, parce que malheureusement, la culture hip-hop est sous-représentée dans le cinéma français.
Alors qu'on est la première émission...
Alors que Yo, sur MTV...
Mais, d'ailleurs, j'ai peur de dire une connerie, mais est-ce que c'est pas HIP, HOP?
Bah, c'est arrivé juste après, je pense. Mais en effet, il y a eu ça.
Okay.
Ah ouais?
C'est que... Ouais.
Ok.
C'est que je pense que HIP, HOP, ça a aussi été inspiré de Yo MTV Raps. Et MTV Raps, ça vient de Yo. Okay. Machin, y a tout ça.
C'est quoi ça?
HIP, HOP, c'est une émission française aussi. Et je crois que pour moi, c'était une pionnière aussi à l'époque. Mais du coup, c'est peut-être Yo. Mais je me demande si c'est pas présenté par Olivier Cachin et tout à l'époque. Je sais plus.
Peut-être bien.
Qui est un journaliste rap qui.
En tout cas, le terme hip-hop vient pas
Non, ils ont pris ce terme-là et justement ils l'ont déconstruit.
Comment tu l'écris H-I-P, H-O-P ?
Hip-hop. Bah c'est hip-hop, mais c'est prononcé...
Putain, moi j'étais en...
Ah oui, H-I-P et H-O-P.
Oui,
j'étais... J'avais jamais pensé.
Rien, j'étais en mode what the fuck.
Genre shipper...
Arrête de l'enlever.
Ok, d'accord.
Et du coup, bah, en France, j'ai pas besoin de faire un énorme dessin. De toute façon, bah, clairement, c'est La Haine en 95 de Mathieu Kassovitz qui, voilà, qui bouleverse tout. C'est sur les émeutes de 90 et compagnie. Et du coup, pour mettre en avant ces cultures-là.
Il y a une vraie portée mondiale en plus à ce film.
Mondiale,
parce qu'il est référencé dans plein de films américains. Et
d'où la carrière.
Dans des clips américains, etc. Mmh. D'où la carrière de Cassel.
De Cassel et de même.
Et de Kassovitz, très brièvement.
Aussi, et même Saïd Tagmaoui qui joue dans pas mal de films américains maintenant.
Je crois connaître déjà la réponse, mais le C'est à moi que tu parles, c'est bien sûr après Taxi Driver.
Bien sûr. Et c'est ça, c'est que du coup, La Haine, c'est un film qui est très très stylisé. Le noir et blanc, c'est
très
un hasard.
Très
référencé du cinéma, et surtout, il y a beaucoup d'onirisme un peu dans ce film. Il y a des trucs un peu surréalistes.
Bah, il y a un travelling compensé, non ? Le trans-trave.
Avec la tourbe, en haut de la tour Montparnasse, ou alors avec la tour Montparnasse en vue, je crois, justement. Ils sont sur une sorte de balcon.
Ils sont sur un balcon, c'est ça.
Et puis du coup, le monde se referme sur eux. Il y a une signification.
L'oppression, et le coup de la vache, et tous ces trucs-là. Et du coup, c'est un peu à mettre en parallèle avec le seul autre film de l'époque qui parle de ça aussi, qui est sorti 2 ans après, c'est Ma cité va craquer, de Jean-Pierre Richet, qui est son premier film également. Donc c'est un plus petit budget, c'est un beaucoup moins bon film. J'en parle parce que je l'ai vu hier soir, exprès. C'est sympa quand même, c'est un parti pris beaucoup plus réaliste. On est beaucoup plus proche du quotidien des jeunes dans les cités de cette époque-là. J'allais dire, bon, c'est moins bien, mais en même temps, c'est un premier film et c'est un petit budget, mais... La Haine est aussi un premier film et aussi un petit budget. Mais bon, je recommande ces deux films-là, et c'est un peu les deux seuls, au final, de cette époque-là pour parler de ça. Parce que dans les années 2000, au final, bah, Banlieue 13, Yamakasi, c'est vrai, quoi, on va parler de Fatal, de Michael Youn.
Là, c'est quand la culture rap a été limite parodie, c'est un grand mot.
Ouais, parodie,
bah, c'est... Ouais, c'est moins des gens qui ont voulu faire valoir leur culture, plus que, ah bah tiens, ça marche, bah, on va faire des
films surfons là-dessus.
Ouais, exactement. Ouais.
Totalement. Et du coup, bah, dans l'aspect positif de ce truc-là, il y a quand même le film d'animation Lascar que je voulais recommander, qui est adapté de la série Canal+. Là. Et lui, pour le coup, ok, c'est une parodie de ce genre de milieu, de ce genre de gens, mais par contre, c'est fait hyper intelligemment. C'est un très très bon film, très drôle. Et du coup, il faut attendre encore 15 ans pour qu'à l'époque moderne, on ait un vrai revirement de ces trucs-là. Donc évidemment, vous savez de quel film je veux parler, c'est Les Misérables. Là, je pense à Athéna aussi, de Romain Gavras.
Ouais.
Il y a Suprême, le biopic de NTM. Mais pareil, il a fallu quand même plus d'une décennie pour quand même commencer à prendre ces trucs-là au sérieux et essayer de les mettre en avant. Donc j'ai pas vu la série validée, mais je pense que ça touche aussi à la culture.
Sachant que ces films... Bah non. J'allais dire qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'aspect social et les problèmes de société, en fait, qui pèsent dans ces milieux-là. Mais en soi, c'était déjà clairement le cas dans La Haine, par exemple, ou quoi.
Ça montre que rien n'a changé, en fait.
En 20 ans.
Non, mais en tout cas, j'ai l'impression que La Haine, c'était quand même beaucoup plus tourné vers les problèmes des personnages principaux dans leur tête et dans leur combat quotidien ou quoi, alors que je trouve que les nouveaux films là qui parlent d'Athéna, Les Misérables ou quoi, ça se concentre pas sur des personnages vraiment principaux, c'est vraiment genre
c'est un film de société
en général, et il y a pas vraiment de personnages principaux. Il y en a forcément qui racontent l'histoire, évidemment, mais ça se concentre beaucoup plus sur un quartier, en fait, plus que sur un personnage précis avec son intrigue à lui.
Sur des banlieues plutôt que des gens dans les banlieues, même si bon, c'est...
Mais par contre, c'est sur La Haine, c'est sur un fond de société, évidemment.
Ouais.
Alors que là, je trouve que Les Misérables, pas forcément Bac Nord ou quoi, mais en tout cas, ces nouveaux films-là, Athéna et Les Misérables, en tout cas, où ils sont beaucoup plus sur des problèmes de société, d'actualité, tout ça, sans pour autant se concentrer sur une intrigue d'un personnage, mais vraiment bien de quartier, de cité, etc.
Et pourquoi tu penses que, par exemple, Les Misérables, pourquoi tu penses qu'il a eu un tel impact ? Parce que quand c'est sorti, c'était les Césars, il a été aux... Non, je dis une connerie, il a pas été en course pour les Oscars ?
Il est sorti en quelle année, Les Misérables ?
2018, non, un truc comme ça ?
Ouais, il y a pas 2019, je crois, un truc comme ça.
Ouais. En vrai, je sais pas, je pense juste que c'est des problèmes de société qui sont, hélas, toujours d'actualité, qui parlent de la misère sociale, qui parlent de ces quartiers défavorisés, qui ont besoin d'être mis en lumière, en fait, que ce soit à travers les médias, à travers tout ça, et justement des problèmes sociétaux qui n'ont pas de mise en lumière à travers les médias, et qui, du coup, grâce à des personnes comme Lajli, tout ça, qui viennent de ces quartiers-là, qui ont le pouvoir et la richesse culturelle de pouvoir mettre en lumière, à travers le cinéma, ces problèmes-là sociaux, font naître, en fait, des très bons films, avec un point de vue, justement, qui donne la parole à des quartiers, en fait, à des gens, parce qu'en plus, il fait jouer, en plus, les gens de ces quartiers-là, etc. Et du coup, on n'est pas dans l'imitation, dans l'incarnation de ces problèmes-là, on est vraiment avec des gens concernés. Enfin, il y a vraiment un aspect documentaire, je trouve, dans ces films, qui ont un vrai impact, un aspect documentaire dans le réalisme qui fait que la violence est hyper réaliste, et c'est pour ça qu'il y a un côté film coup de poing qui du coup marque au César, etc. etc.
Ouais, surtout qu'il a énormément divisé aussi. Je sais.
Il a divisé, oui, pour l'aspect parti ou quoi, mais en tout cas, c'est, je trouve, pour changer des médias, car ils n'ont pas, et c'est le cas, je le pense, l'opportunité d'avoir une libération de la parole dans les médias, ils n'ont pas une place, ces gens-là, dans les médias, et bah, c'est à travers le cinéma et à travers le talent de ces personnes-là, de ces réalisateurs-là, que du coup, bah, ces films ont de l'impact, parce que c'est rare quand on peut avoir autant de lumière sur des problèmes comme ça, quoi.
Un film de banlieue, mais un film social, mais qui est réalisé par un mec de banlieue aussi. Donc,
Et qui donne le point de vue de la police aussi.
Ce qui est, ouf, ce qui est extrêmement
rare. C'est vrai que c'est assez rare.
Qui se fait une étude de cas, en fait.
Il fait une étude de cas et il laisse le spectateur, en fait, avoir son propre avis.
Ouais, avec la fin ouverte, etc.
Avec la fin ouverte. Mais il y a aussi, tu vois, Bacnor a beaucoup plus fait débat que Les Misérables sur certaines positions.
J'ai entendu les polémiques, mais j'ai pas
sur certaines positions qui peuvent être politiques. Ou quoi, et en fait je pense qu'à partir du moment où tu décides de raconter des histoires qui sont ultra d'actualité et qui
clivantes,
et bah c'est le, et que je pense qu'en écrivant le scénario il le savait déjà. Après, se faire un avis, je pense que dans les deux cas, que ce soit Les Misérables ou Bacnor, il y a forcément du bon et du mauvais des deux parties, on va dire, et que dans tous les cas, même si je ne prône pas l'aspect fiction et qui excuse tout, mais dans tous les cas, ça reste des histoires qui sont racontées à travers une idée, une envie scénaristique, et que du coup, ça ne reste, même si c'est vraiment imprimé de la réalité, tout ça, mais ça reste des personnages, ça reste de la fiction, et l'envie de raconter une histoire à travers des personnages, et donc calquer la réalité en France telle qu'elle est aujourd'hui dans ces films-là, et bah ça peut être une erreur, comme ça peut être aussi l'intention du réalisateur, donc voilà, ça reste un vrai débat clivant, mais avant tout c'est du cinéma, et du coup il faut faire attention, et c'est là qu'est la différence entre la fiction et le documentaire. Et ces films-là ne le sont pas, documentaires.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il me semble que Ladjili a aussi écrit Athéna, de Romain Gavras, je crois. Et c'est un peu la même bande, un peu tout
après,
ça.
Ils ont tous les deux fait partie de Courtrage.
Voilà, c'est là que je voulais en venir.
Je pense que les deux ont dû s'échanger des scénarios, etc. pendant leur film.
C'est qu'il y a ce truc-là de Courtrage, mais du coup, de petits collectifs de mecs de cité qui ont fait des petits courts-métrages dans les années 90 et qui ont pu se lancer dans le cinéma grâce à ça. Ils ont fait du clip et compagnie. Et maintenant, ils ont même ouvert une école.
Ils ont ouvert une école, ouais.
Des cracks, en vrai. Genre, ils sont
c'est
trop forts.
C'est les représentants de ces cultures-là dans l'art français.
Ouais, grave. Ils ont beaucoup fait pour le mouvement hip-hop,
la culture de...
Mais ils ont beaucoup fait pour cette culture, la culture du clip, et même de montrer que c'est eux qui ont révélé Vincent Cassel, au final.
Bah, totalement.
Vincent Cassel, c'est les premiers courts-métrages dans lesquels il joue.
Alors que pourtant, c'est le fils d'un acteur très connu. Hein,
grave. Et même Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras.
Et même Kim Chapiron, c'est aussi le fils d'un artiste.
Bah, c'est ce qu'on reproche souvent aux gars de courts-métrages, mais justement, souvent dans les sections commentaires de YouTube, t'as plein de trucs comme quoi il ne serait pas légitime de faire ce genre de film, car ils sont fils d'eux.
Des vrais mecs de cité.
Ouais, voilà, mais bon, à un moment, il faut que les gens le fassent aussi. Je peux comprendre que ça gêne certaines personnes, mais je trouve ça bien que ça ouvre la porte, peut-être, pour des gens qui sont peut-être encore mieux placés pour le faire.
Ils ont fait passer le message et ils ont montré qu'il y a le plafond de verre à briser, tu vois.
Ouais, et ils ont montré que ça peut marcher aussi, parce que Les Misérables, c'était quand même un succès, si je dis pas de conneries. Et là, il y a Bâtiment 5 qui vient de sortir, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir.
Mais tu vois, Les Misérables, je trouve qu'il a un succès... parce que d'actualité, parce que social, et comme beaucoup de films d'ailleurs qui ne traitent pas forcément le sujet de la cité, ça peut être les agriculteurs, c'est plein de choses, mais en tout cas, du moins, les films sociaux ont toujours de l'impact en France, parce qu'on est très, très, très à l'écoute de ce que les réalisateurs pensent et écrivent de la société en France. Mais je pense que Les Misérables, il a aussi une chance, et en même temps, ça a été voulu, d'avoir été coup de poing. Et en vrai, je trouve que moi, du moins, ce qui m'a personnellement le plus marqué dans ce film-là aussi, c'est la violence à l'image qui a été mise en scène et traitée de manière très, très réaliste. Aussi d'avoir fait, et tout ça pour plein de raisons, d'avoir choisi aussi des, non pas des acteurs, mais dans la figuration et dans les acteurs ou quoi, toujours des vrais gens en fait, des vrais gens et tout. Et en fait,
super film aussi, il est super bien écrit.
Ah non, mais il est hyper bien écrit, et ce qu'il raconte et tout, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est pas que parce qu'il est social qu'il a marqué ce film, c'est aussi parce qu'il est violent et photoréaliste dans tous ses aspects. De
je
par
pense que
tous ces choix-là, tu vois.
Soit autant violent, c'est que en tant que spectateur, tu te rends compte que c'est pas une violence fictive aussi, dans le sens où ça a dû arriver à des gens et
flirte entre le documentaire et la fiction, et c'est pour ça qu'il fait autant débat, je trouve, et c'est pour ça, pour parler de Bacnor, que je trouve que les gens sont très impliqués et très critiques vis-à-vis de ces films-là. C'est mon avis. Hein. mais c'est parce que c'est des films qui veulent flirter entre le documentaire et la fiction à travers le choix de l'histoire, du contexte, parce qu'elle est très actuelle. Et du coup, bah, à partir de là, tu flirtes vraiment entre un sujet vraiment d'actualité et ton histoire que tu veux raconter, que tu as écrite de manière fictive.
Ouais, et puis c'est un
et du coup, les gens se sentent impliqués, en fait. Et donc, forcément, ça divise. Et...
Je sais pas si vous avez vu, là, Lajli vient de sortir un... C'est le seul contenu de Combini que je regarde, mais c'est les formats vidéo club. Et du coup, il y a Lajli, ouais.
De
Bâtiment 5 qui y est. Et j'ai vu l'intro, je crois. Je suis pas allé très loin dans la vidéo, parce que j'étais occupé. Mais ça m'intéresse, je vais regarder. Mais par contre, vous regardez la section commentaires. Déjà, les sections commentaires de Combini, généralement, ça vole pas très haut. Mais là, la violence qu'il y a dans les commentaires, c'est assez inouï. Et okay. du coup ça montre à quel point les gens sont...
À quel point ça divise.
À quel point ça divise et à quel point les mentalités vont d'un extrême à l'autre.
Bien sûr.
Et tous les trucs que tu as dit là, Léon, c'était déjà vrai dans Ma Cité va craquer 20 ans plus tôt.
Bien sûr.
C'est des trucs qui ont toujours été là. Il y a juste la façon dont tu la montres, en fait.
Et la manière dont tu la mets en scène, exactement.
Cette violence-là, je veux dire, elle est déjà... Enfin, Ma Cité va craquer, c'est le dernier quart d'heure du film, c'est une émeute non-stop, sans dialogue, c'est que la violence en montage alterné avec un clip de rap en plus.
En fait, je trouve que les images d'aujourd'hui dans ce genre de film et de cette nouvelle génération de films de cité ressemblent énormément, et aussi parce que c'est des mecs qui viennent du clip et tout. En fait, s'inspire énormément de tout l'univers, juste Gavras, tu vois, genre Athéna en vrai, genre c'est.
Athéna, c'est encore autre chose.
Athéna, c'est un pépin.
La séquence d'intro, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film d'un point de vue metteur en scène, enfin mise en scène, esthétique et tout ça, parce que c'est vraiment un gros plan séquence, c'est une prouesse technique, et puis en plus ça c'est magnifique visuellement, bref.
Est-ce que je peux faire une aparté qu'on mettra dans...
Vas-y.
Dans un de mes clips, il y a un des acteurs principaux d'Athéna.
Ah ouais.
Voilà. Celui qui joue le frère du milieu, je crois, il y a trois frères. Okay, un petit, un moyen, un grand, celui qui a les cheveux longs, il est dans un de mes clips.
Bah, le plus vénère, c'est le plus vénère.
Le plus énervé, ouais. Et celui qui a une fin tragique à moitié. Voilà.
Il joue très bien.
J'ai déjà rencontré.
Et il était cool.
Alors, c'était un figurant qu'on reconnaît à peine dans le clip, etc. C'est l'ami de l'artiste pour lequel je faisais ce clip-là. Mais du coup, je l'ai connu avant Athéna. Et c'est en voyant la bande-annonce d'Athéna que je me suis dit, mais non, il faut s'épuiser. Du coup, c'est marrant, le monde est petit.
Du coup, est-ce que vous trouvez que le cinéma de cité, les clips de rap, ça décrit une vision réaliste des banlieues en France? Alors, on n'a pas grandi dans des banlieues, donc on n'est peut-être pas les meilleures personnes pour.
Ouais, je sais pas.
Voilà, mais vous trouvez que c'est pertinent comme...
Les Sables d'Olonne, ça compte pas, Martin.
Est-ce que vous pensez que c'est une vision fantasmée, ou est-ce
Alors, c'est ce que les gens reprochent au cinéma de Gavras, justement, de fantasmer cette banlieue, etc.
Les gens de la banlieue, ou les gens qui ne vivent pas dans la banlieue?
Des sombres gens sur Internet, je ne sais pas d'où ils viennent, malheureusement, mais oui, c'est un reproche qui a beaucoup été fait au cinéma de Gavras. Après, moi, je pense que, déjà, je trouve ça pas très bien, mais c'est explicatif. Enfin, quand Les Misérables est sorti, on l'a beaucoup comparé à La Haine, parce que c'était le seul élément de comparaison qu'on avait, alors que le film avait 20 ans. Et au final, les deux films sont pas si différents que ça. Et du coup, ça montre que bah, y a un réel problème et que ça a pas trop changé. Donc quelque part, même si tu n'as pas vécu ce que les personnages vivent dans le film, je pense que tu peux comprendre que c'est une réalité, et c'est peut-être quelque chose que les gens ont envie de dénoncer. Et je pense que quand Lajli a fait ce film, une de ses premières intentions, c'était de dénoncer ce genre de comportement.
Mais pour moi, à partir du moment où un film de banlieue est réalisé par un mec de banlieue, bah déjà, je vais pas le regarder pareil. Que si c'était fait par je sais pas moi...
Par Luc Besson.
Oui, voilà, Luc Besson, il fait un film de banlieue, bah je suis en mode... Ok.
Bah, Yamakasi, je crois que c'est.
Mais même Banlieue 13, produit par Besson. Même si c'est une version fictionnelle d'un poste, d'un futur proche de Banlieue, etc.
Dystopique.
Ouais, dystopique, exact. C'est le mot que je cherche.
Ouais, par rapport au clip. Non, mais. Et puis même, je sais pas, t'as peut-être déjà parlé de cinéma de banlieue, tu vois, avec des artistes qui viennent de la banlieue. Et qu'est-ce qu'ils te disent, tu vois? Ça raconte que de la merde. Est-ce que. Ouais, c'est trop édulcoré. Est-ce qu'au final.
J'ai pas eu énormément de discussions à propos de ça, donc du coup, je sais pas. Je pense que ça doit faire plaisir à des gens de se sentir représentés avec des guillemets, de juste voir leur quotidien à l'image, et je pense que c'est ce qui a plu aussi quand dans l'épisode précédent on parlait de PNL et comment ils ont un peu révolutionné le clip un peu dans les années 2015, c'est qu'ils ont montré une sorte de quotidien et de réalité qu'on n'avait pas l'habitude de montrer, et encore une fois pour ceux de Mafia Cafri avec Courtrage Mais c'est un peu pareil, donc c'est juste que les gens mettent une sorte de spotlight sur une réalité qu'ils vivent. Et je pense que ça peut parler à énormément de monde. Et du coup, je pense que que tu sois jeune, vieux, etc., si t'as vécu dans ce genre
de vie, quoi.
Eu ce genre de contexte, je pense que tu peux te sentir représenté, comme tu peux aussi y trouver une version un peu fantasmée ou fictionnée de ta réalité. Mais je pense que c'est pareil partout. Je pense que quand là, le grand écart est incroyable, mais quand Scorsese il fait Taxi Driver, Scorsese il est new-yorkais, il dépeint un peu une image de sa vision de lui de New York, même si en soi la vision elle est horrible et le personnage il part en couille, etc. Ou alors Spike Lee quand il sort Do the Right Thing, si t'es issu des quartiers défavorisés new-yorkais, bah du coup tu peux t'y retrouver, même si c'est une fiction et même si...
Même si t'es pas noir.
Exactement, et même si t'as pas forcément vécu ce qui se passe dans les films, je pense que... De toute façon, je pense que chaque œuvre, il y a un petit peu de la part de la personne qui le fait.
Ça reste toujours une interprétation. Ouais. Ça me fait penser, tu parles côté américain, Into the Wild, rappelez-moi le...
Sean Penn.
Gros débat sur Into the Wild, j'avais déjà entendu ça, du moins, dans d'autres podcasts, sur le fait que Sean Penn est né avec des couverts en argent, est issu d'une grande famille,
d'une
grande famille bourgeoise américaine, tout ça. Et du coup, a raconté justement un film sur une grosse critique de la société capitaliste américaine pour après réaliser un film d'un mec qui veut justement quitter tout ça. Comme quoi, il ne serait pas légitime de raconter ce genre de choses. Et au final, bah si, c'est aussi intéressant de raconter ça. C'est une histoire vraie.
C'est une adaptation de quelque chose qui a vraiment existé.
Bien sûr. Donc... Mais c'était juste pour donner l'exemple de...
De toute façon, les gens trouveront toujours un moyen de faire chier.
Évidemment. Mais c'est juste pour donner le contre-exemple de... Bah, ça peut être aussi intéressant d'imaginer quelqu'un qui n'est pas impliqué ou concerné par un problème et qui donne sa propre interprétation pour créer une histoire, en fait, tout simplement.
Voilà, après,
tant que ça reste une histoire et pas de la politique, par exemple. Voilà,
exactement, mais encore faut-il qu'elle soit
au moins, ça a moins d'impact.
Pertinente et réfléchie.
Concret.
De toute façon, je pense que quand on arrive à faire un film qui sort en salle, c'est que tu t'es un minimum renseigné sur le sujet.
Évidemment, de ouf.
Même si tu ne viens pas forcément du milieu que tu dépeins dans ton histoire, j'ose espérer que t'as fait tes devoirs avant.
Et puis, de toute façon, en soi, faire un film n'a comme première ambition que de créer une œuvre artistique. L'impact, même s'il peut avoir de l'impact politique, sociétal ou quoi, l'intention première, c'est de réaliser un projet qui a un impact artistique. Et c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui va peut-être être élu politiquement pour changer la vie de gens qui ne le concernent pas et qui n'y connaît rien, tu vois, genre...
Ouais, après, ça, c'est sur les films...
On va pas parler politique, mais en tout cas, c'est deux choses différentes, tu vois.
Ouais, mais c'est quand même des films qui ont quand même volonté
à faire bouger les choses.
Enfin, c'est de la...
Et à faire bouger les points de vue.
Ouais, à dénoncer, ou alors au moins à faire réfléchir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bien sûr. Mais c'est pas du documentaire non plus.
Non, mais bon...
Tu veux pas documenter en écrivant une histoire, mais il y a des réalisateurs, et je suis d'accord.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que tu peux faire une œuvre de fiction qui emprunte énormément à la réalité, sans forcément le dire, tu vois.
Bah ouais, grave. Et c'est pour ça qu'il y a des films qui font débat et qui font étape. La haine, il met en lumière un vrai problème, et si le problème a vraiment été mis en lumière, c'est parce que le film, il est dingue aussi. Enfin, je trouve que tu peux faire une œuvre de fiction au service d'un problème de société et pour mettre les projecteurs sur un souci, tu vois. Et surtout que, bah, malheureusement... il y a beaucoup moins de gens qui regardent du documentaire que de la fiction. Il y a moins de documentaires projetés au cinéma, les gens vont moins au cinéma projeter des documentaires que des artistes comme Lajli qui sont originaires de la banlieue, qui ont vécu, il l'avait déjà dit à la sortie des Misérables, que ce qui se passe dans Les Misérables quand il était plus jeune, c'était pas son quotidien mais presque, quoi.
Oui, je crois qu'il s'est inspiré de le coup du cirque là, avec le lionceau, enfin il y a un lion à un moment qui s'échappe,
et que du coup pour moi, et qu'ils se disent quand j'étais jeune, il se passait des trucs de fou, on n'en parlait jamais. Moi, je m'en fous, je vais faire mon film, et il va parler de ça, et du coup, bah, ça a fait parler, et c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop bien quand le cinéma de fiction se politise des sujets, tu vois. Il y a mille exemples, même des trucs beaucoup moins drames sociaux que Les Misérables, hein, mais Heure. De Spike Jonze, bah, il a quand même un peu posé une petite question, même à son échelle, alors que c'est un film ultra romancé, il a un peu quand même posé une question.
Après,
sur...
c'est pas le propre de l'art.
Sur la solide... Bah si,
bah, mais, ça,
oui, ouais. Mais du coup, je trouve ça bien, moi, que le cinéma, il oublie pas cette possibilité-là d'être important, tu vois, de pas juste faire un film pour faire un film, et de faire un film pour... ça me titille la société, pour moi il y a un problème, hop je vais parler de ça, tu vois, je trouve ça important. Et je trouve que la fiction peut être un super moyen de parler de ça pour choquer en plus, enfin, je pense que même la fiction peut être encore plus choquante que du docu si jamais c'est bien...
Moi je pense que c'est plus frappant, oui c'est sûr que...
Tu sais, d'aller dans un excès, et qu'en fait c'est le public après qui se dit oh, mais en fait c'est dans l'excès mais c'est pas si loin du c'est pas si loin du réel quoi. Le personnage de Her de Spike Jonze qui est dans une solitude extrême et c'est pour ça qu'il tombe amoureux d'une IA. Je suis sûr il y a plein de mecs ils ont vu le film, ils ont dit ah ouais mais moi j'ai la même life que ce mec en fait. Et bah
il y a des mecs qui sont mariés avec des intelligences.
Mais oui mais voilà, mais en fait tu regardes le film, tu dis ouah putain ouah c'est chaud quand même le scénar et tout, puis après tu vois des trucs dans l'actualité où exactement tu vois des trucs bah ouais des mecs qui se marient avec des IA et tu dis ah ok en fait la fiction, ouais, peut être.
Et encore,
ultra
tu vois, la Chili, il aurait pu choisir d'essayer de parler de ce problème-là et de formuler sous forme de science-fiction.
Ouais,
comme
mais grave,
Spike
mec,
Jonze,
mais...
etc. Alors que lui, il a choisi vraiment de mettre les deux pieds dans le plat et de traiter le truc de manière très brute. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi violent et aussi coup de poing, aussi, le film. Parce que ça fait réel et parce que ça.
Parce que ça flirte avec le documentaire, quoi, genre.
Ouais. Il y a un film que j'ai trop envie de voir, j'ai jamais vu. Je sais pas s'il est aussi critique sur. Mais je crois que c'est un film de banlieue, c'est Gagarine. Tu l'as vu toi ?
La BO.
Ah t'as pas vu
comment
tu dis ? Gagarine. Gros c'est un gros film de science-fiction mais en banlieue. Mais comme Attack on the Block. Mais pour le coup Attack on the Block c'est une
comédie.
Attack the Block c'est une comédie. Mais là je crois que Gagarine c'est vraiment un film de science-fiction français en plus. Je crois qu'en fait il y a un peu l'utilisation. Je l'ai pas vu. Hein, mais je crois qu'il y a l'utilisation de la science-fiction pour dénoncer un peu les castes et le.
Ah bah comme tous les films dystopiques de toute façon. Ça, c'est toujours le parti principal. Et on se rend bien compte que de toute façon, ouais, d'une culture à l'autre, les problématiques sont les mêmes. Dans la question du réalisme, de ce que ça dépeint, ces films-là, bah, si on prend des films américains, au final, c'est les mêmes questions. Et si on prend des films anglais, c'est les mêmes questions. Sur un point de vue un peu plus léger, moi, je voulais parler aussi de comment le cinéma a influencé la culture hip-hop. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, enfin, je suis obligé de penser direct à Scarface, par exemple.
Ouais, c'est sûr, Scarface.
Les Affranchis, par exemple.
Les Affranchis de fou. Bah, en fait, toute cette idéologie gangster qui est un peu cliché maintenant dans. Qui est carrément devenu un cliché. Alors qu'avant c'était grave adulé, mais c'est carrément devenu un cliché, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais
c'est exactement
mais j'avoue que Scarface a été adulé et à tort en plus.
Et à tort, c'est ça.
Au final, Tony Montana, c'est pas un rôle modèle. C'est
le film.
Exemple sur
c'est pas un rôle modèle.
Le film est génial, mais il faut pas. Oui, il faut pas.
Il est en dépression, ce mec.
Non, mais c'est même marrant que des gens voient Tony Montana comme un symbole de réussite, alors qu'au final, le gars. Enfin. Il a réussi financièrement, mais il a rien réussi d'autre.
Le film raconte l'inverse.
C'est un gros loser, il galère avec les meufs.
C'est marrant le fait que ce film-là soit autant adulé, autant référencé, surtout dans le rap français. Je sais pas si ça doit l'être dans le rap américain, mais surtout dans le cinéma français. Dans le rap français, pardon. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Ouais.
Je m'étais noté ça pour en parler, mais il y a eu un long moment, je trouve, dans la culture hip-hop et puis dans le clip de rap, où il y avait vraiment ce côté... t'es gangster, tu vois, en mode notre clip il va parler du trafic de drogue, de la violence et de la bagarre, tu vois.
En même temps, c'est ce qui faisait vendre aussi au début des années 2000.
Voilà, je trouve que ce truc est en train de s'essouffler, et je trouve même, et du coup je voulais parler de ça avec toi vis-à-vis du clip de rap, et on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis content d'y revenir dans la première partie, mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, les rappeurs assument beaucoup plus de faire du clip beaucoup plus poétique, beaucoup plus créatif, et aussi de mettre des trucs... je suis sûr que dans les années 2000, tu pouvais pas mettre ça dans ton clip de rap, genre des grosses références de geek, tu vois, j'ai l'impression que les rappeurs s'assument de plus en plus leurs rêves geek, tu vois, la culture japonaise, de super-héros et tout, tu vois, alors qu'avant, c'était dans le cliché, et malheureusement, c'était un peu vrai, je pense, que c'était vraiment juste, nous, dans notre cité, c'est vraiment le ghetto, quoi, et j'ai l'impression que maintenant, il y a une modification de ça, et que du coup, même les clips, ils changent, effectivement, et du coup, si tu as un mot à dire là-dessus.
Je pense que ce côté un peu gangsta rap, bling bling, du début des années 2000, il est venu surtout des Américains. C'est souvent les clips de, je sais pas, moi je pense aux clips de 50 Cent, etc., qui sont des clichés en eux-mêmes maintenant, mais à l'époque, quand ça sort, moi je peux comprendre qu'un jeune regarde ça et se fasse matrixer complètement, et genre, c'est la voiture que j'ai envie d'avoir, c'est les chaînes que j'ai envie d'avoir,
un mec qui sort ça maintenant, tu te tapes des barres, presque.
Ouais, voilà, mais pourtant, ces clichés-là sont toujours présents.
Encore,
ils
existent
existe encore. Il y en a qui arrivent à très bien le détourner, d'autres pas du tout.
C'est ce truc du rêve américain qui est le parti pris principal de Scarface.
Ouais, grave. Et c'est ce fantasme de réussite financière qui t'amène des meufs, du fric et des bijoux et des armes.
Tout ce
qu'on
veut.
Mais là je le formule de manière très cliché, mais j'ai aussi l'impression que même dans ce qui concerne les lyrics de ce que les rappeurs peuvent raconter aujourd'hui, J'ai l'impression que le parler de soi, parler de
la dépression,
de problèmes de santé mentale, etc., c'est quelque chose que les artistes sont en train de vraiment de s'ouvrir là-dessus, et même l'auditeur lambda s'ouvre aussi là-dessus et est capable d'accepter ça, d'accepter qu'un artiste parle de ses faiblesses, de ses coups durs, des choses qui vont pas, alors qu'avant vraiment c'était symbole de réussite, c'était street cred à fond. Et
après il y avait déjà des MC Solar, Oxmo Puccino, des mecs beaucoup plus sensibles.
Ouais, bien sûr, et qui avaient aucune prétention de faire du rap comme ça. Et
parce qu'il n'y avait pas ce côté ego bling bling.
Exactement.
Mais maintenant, ça devient plus normal, en effet, ça devient plus démocratisé.
C'est ça. Mais après, je pense que, du coup, comme toute mode, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et je pense que les gens ont voulu ramener autre chose que ce côté un peu show-off de symbole de réussite, etc. Sûr. Et puis, je pense qu'aussi, avec les années, l'avènement des réseaux, etc., on s'est peut-être rendu compte que, c'est pas forcément vrai ce que les rappeurs racontent, et du coup ça c'est tout un débat de est-ce que quand tu rappes tu te dois d'être 100% réel et d'être de représenter quelque chose vraiment le plus vrai possible, ou est-ce que au contraire tu peux te permettre de faire comme les ricains et d'entertain et de grossir les traits, de dire que t'as flingué 5 mecs, etc., alors que c'est pas du tout vrai. Donc il y a toujours ce débat actuellement, mais c'est vrai que maintenant
c'est pour ça que
visuellement merde dans le contenu de ce que les gens racontent, les gens, j'ai l'impression, s'ouvrent un petit peu plus à des choses différentes. Et du coup, je pense que oui, c'est peut-être plus facile d'assumer maintenant une référence à des animés, des choses comme ça, de la pop culture,
jeux vidéo et compagnie,
que avant, où alors t'avais vraiment des codes à respecter, et du coup, ta crédibilité en dépendait, parce qu'à l'époque aussi, il faut savoir qu'un clip, t'en sortais genre un, voire deux par projet, et c'est tout. Et c'est la seule image que les gens vont avoir de toi avec ta pochette. Donc du coup, tu te dois d'être le plus vrai dans ton personnage, en quelque sorte. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tu fais une story Insta...
Oui, les gens, ils voient comment t'es en vrai, tu peux plus prétendre à être autre chose. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a une nouvelle voie qui s'est créée, c'est celle de vouloir raconter des histoires avec les clips aussi. De raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec ni avec leur vraie vie, et ni avec l'image d'artiste qu'ils se sont donné. Enfin...
À un moment, le rap, quand ça a émergé, c'était vraiment un outil de dénonciation et de vérité, en fait. Tu rappais ta vie, tu rappais ce que tu vivais, etc. Et je pense que maintenant que ça s'est popularisé, et c'est même quelque chose que les gens reproche au rap, mais du coup maintenant tu peux te permettre de rapper pour faire autre chose que dénoncer, pour inventer des histoires, pour raconter quelque chose qui n'est pas ta vérité, et c'est ce que les gens reprochent à beaucoup d'artistes, d'être soi-disant faux, soi-disant tu n'es pas assez ceci pour raconter cela, etc. Et donc du coup c'est des débats un peu après à voir si c'est futile ou pas. Mais
c'est que le rap était toujours rattaché en fait à la culture hip-hop, là où maintenant c'est plus un outil que tu peux utiliser dans ta musique.
Voilà, c'est ça, mais même maintenant tout le monde écoute, avec des gros guillemets, mais tout le monde écoute du rap.
Ou
le rap, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes en France. Donc du coup, il y a du rap pour tout le monde, et c'est sûr qu'il y a des rap pour les petits bobos du 7ème à Paris, et il y a des rap pour les gens des quartiers qui veulent vraiment avoir leur vérité.
Le rap est vraiment devenu en soi la nouvelle musique en fait de
c'est la nouvelle
quoi.
Pop, on peut
c'est la disco des années 70, c'est le...
Et encore, la
trompette d'époque, mais oui.
Si, 70, ouais. Mais la disco, c'était un truc qui est...
C'est le rock des années 2000 et c'est le rap d'aujourd'hui, tu vois.
La différence étant que justement la disco c'était comme tu disais éphémère. Et
alors que nous ça fait 50 ans que c'est là. Voilà. Enfin, le hip-hop est là depuis 50 ans.
Ça fait depuis 2010 que c'est top tendance Spotify
certes,
tous les jours.
Certes, mais au final des grands.
Avant les années 2000 c'était plus du rock et puis tout ça quoi.
Ouais, mais dans les années 80 et 90.
Certes, mais tu vois aujourd'hui on parle encore de groupes comme IAM ou NTM. Eux ils sont là au début, enfin fin des années 90, tu vois. Donc au final
mais ils existaient déjà.
Ouais, bien sûr.
Comme tous les genres musicaux en soi ont toujours existé. Juste, ils ont leur grande période, et je pense qu'en fonction des décennies, il y a toujours un grand genre musical au box-office. Je pense qu'il y a toujours un grand genre musical par décennie, tout ça. Et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans, du moins, je pense, que c'est le rap qui plaît aux jeunes.
Et parce que ça a remplacé entre guillemets le rock. Et
ça a remplacé le rock, et puis c'est tout à fait normal aussi. Après, maintenant.
Les rap stars sont les nouvelles rock stars.
C'est ça. Et c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est toujours les goûts de chacun, les tendances ou quoi. Et de toute façon, les tendances, je pense, sont éphémères. Est-ce que le rap continuera toujours autant à plaire et sera toujours dans les tendances encore dans 10 ans? Ou est-ce que ce sera comme le rock, comme la pop, comme la disco, comme tout ça.
Il y a la K-pop qui arrive en force. Hein. Non, mais c'est vrai, je déconne pas. Genre,
oui. Et ce sera jamais top 50 Spotify. Ça l'est, mais ça ne sera pas pendant 10 ans. Tu vois. Et j'en sais rien.
Est-ce qu'il y a 35 ans, les gens se disaient que le rap serait le genre numéro 1 au monde?
Et puis surtout, ça, c'est des genres qui sont tous chacun cloisonnés. Mais justement, le truc de la K-pop, c'est que ça mélange tous les styles. C'est que tu as autant de rock, d'électronique que du rap, et ça mélange tous les types d'instruments possibles.
Même on le disait tout à l'heure, mais même le rap aujourd'hui, ça veut presque plus ça. Rien dire, parce que du rap, t'as du rap très engagé qui dénonce des choses, et t'as du rap, les superstars.
Et t'as tout le monde qui fait aussi du rap. Chose, genre,
ouais, et tout le monde rap aujourd'hui.
Tu vois, genre, même pour parler du YouTube Game, tout ça, mine de rien, tous les grands influenceurs, les mecs d'internet, tout ça, quand ils se mettent à faire de la musique,
c'est que du rap.
C'est que du rap.
Squeezie et compagnie.
Ouais, de ouf. Genre,
parce qu'ils viennent de la hip-hop. Ben oui, ils viennent de la hip-hop génération aussi, du coup.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est ce qui est bankable et c'est ce qui marche aussi. Donc, moi, je fais partie de l'équipe de com de Squeezie, il veut faire de la musique, je vais plus lui conseiller de faire du rap que de faire du folk.
Évidemment, normal, tu vois.
Et en même temps, on dit ça, mais en même temps,
si je ne conseillerais pas à Squeezie de faire du rap.
Très dégueté.
Oui, même ça, c'est une vanne, quoi.
Oui, c'est une vanne, mais en attendant, il fait un.
Oui, mais en attendant, il a sorti
la parodie Ozone, là.
Oui, mais en attendant, il a sorti un album de rap et on n'a pas parlé de l'album de rap de Squeezie.
Mais tu vois, genre.
Hein,
c'est bien ou pas? T'as jamais écouté?
Pour parler de ça, de YouTube, etc., pour parler du fait que c'est la musique à la mode actuelle que tout le monde aime et que du coup, on est au courant de ce que les influenceurs font et du coup ils font toujours du rap. Tu vois, genre même McFly Carlito, pour parler d'eux, tout ça, qui avaient fait... Bon, ils ont pas fait du rap, ils ont fait de la parodie, de la pop mélangée et tout. Et au final, finalement, après, t'aimes ou t'aimes pas ou quoi, mais ce qui a le mieux marché pour eux, c'est quand ils ont retraduit leur musique en faisant du métal, ce qu'ils aiment vraiment comme style de musique et d'où ils viennent en fait vraiment. Et oui, ça avait une meilleure gueule. Même si je pense que beaucoup de métalleux chieraient littéralement à la gueule de ça. Ouais,
au moins, ils ont fait
mais au moins, voilà, qui leur ressemble. Et ça a beaucoup mieux marché, tu vois.
J'avoue, je connais pas trop l'histoire de McFly et Carlito, mais je pense que si c'est un genre qui leur plaît plus déjà de base.
Bah, en fait, ces mecs-là, ils viennent de ça, tu vois.
Ouais, j'avais cru comprendre que oui, ils avaient un groupe et tout à l'époque, ou même ils avaient fait
ils étaient chroniqueurs radio et tout, on parlait de ça, tu vois.
Donc, ouais, les gars, si vous voulez faire de la musique, faites ce qui vous plaît.
Ils ont voulu faire de la pop pour surfer. Mais par contre, c'est
ce que les gens reprochent justement aux artistes d'aujourd'hui, c'est que du coup, il y en a plein qui se mettent à rapper parce qu'il faut rapper, tu vois.
Mais là, c'est ce qu'ils ont fait McFly et Carlito, mec. Je suis sûr que dans tout ce monde-là, YouTube, les nouveaux influenceurs, je suis sûr que c'est jurisprudence, quoi. Genre, les mecs, ils ont trop fait de la merde parce qu'ils ont fait pas quelque chose qui leur ressemble et ils ont voulu faire de la musique d'aujourd'hui.
Ouais,
et,
moi, je vois ça un peu comme des boomers qui essaient de parler à des. Bah, parce que leur public est très jeune aussi, tu vois.
Oui, c'est ça.
Mais t'en as pas un qui rappe pas, mec, genre vraiment.
Bah oui, c'est ça.
Ouais, mais du coup, final, je pense que les gens, ils vont. Il y en a pas un qui est pas ridicule aussi. Donc là, tu vois le souci aussi.
Il y en a pas un qui est.
Qui n'est pas ridicule.
Il n'y en a pas un qui n'est pas... Oui.
Ah ouais, il n'y en a aucun là dans les...
Bah, cite-moi un youtubeur qui rappe.
Je sais pas, moi j'écoute pas leurs albums.
Voilà. Mr. V, peut-être.
Ouais, voilà. Bah, j'avoue que oui, en le disant, je me suis dit ça, mais même Mr. V, il y en a qui le critiquent, tu vois. Ouais, même si au final, Mr. V a toujours
été... Il sort de Cacaprout et il fait un album de rap.
Mais après, en soi, Mr. V, le rap n'est pas arrivé comme ça d'un coup sur sa chaîne. Il a toujours été influencé par ce truc-là, il en a toujours un petit peu parlé. Donc du coup, je sais pas s'il est légitime.
Et oui, Michou qui va faire du rap,
ça fait. C'est un peu plus visible, tu vois, parce que du coup, c'est un phénomène de société et du coup, il faut faire du rap. Mais c'est comme si.
Parce que les autres le font, faut le faire aussi, quoi.
Mais imaginons dans un monde de imaginaire, en 2018 sort Les Misérables, c'est un carton mondial en France. Je peux te dire qu'on aurait eu 14 Misérables depuis, tu vois, par exemple.
Mmh. Bah, ça aurait été un carton, mec.
Non, mais...
Un carton mondial,
non, mais genre, un carton incroyable, tel que.
Comme Intouchable.
Ouais, voilà, genre, putain, on va faire que des films comme ça parce que c'est ce qui plaît aux Français, tu vois. Mmh. Et du coup, on aurait eu une chier de bébés misérables qui aurait essayé de surfer sur cette tendance-là.
Après, Athéna, Bâtiment 5, elle commence en fait. Cette...
Oui, mais c'est la même team, tu vois.
C'est la même team, donc c'est peut-être un peu plus légitime en quelque sorte, tu vois.
Mmh. Mais c'est pas Guillaume Canet qui a essayé de refaire un...
C'est parce que aussi le cinéma français, il est un peu... Les portes, elles sont un peu fermées aussi. Hein.
Drame
c'est
social.
C'est compliqué de monter des films.
Ça rentre Les Misérables dans
non, mais je parlais plus, sans parler de genre, je parlais plus de gens.
Et de spectateurs, quoi. Genre
non, pas de spectateurs, d'équipes. Que les films français, c'est un peu tout le temps les mêmes personnes, c'est un peu tout le temps les mêmes producteurs, c'est un peu tout le temps les mêmes réals.
Mais t'as aussi du renouveau en soi. Tu vois, t'as la team de La Cité, t'as maintenant la team du cinéma d'horreur de genre aussi qui commence à grandir.
Oui, mais c'est.
Plein de nouvelles choses, tu vois.
Oui, mais c'est vraiment.
Avec le film Vermine, là.
Ouais, voilà.
Mais c'est. Tout nouveau, quoi.
Mais c'est des jeunes générations, tout ça.
Mais tant mieux, parce que ça donne la parole à des gens qui ont pas forcément, qui n'avaient pas forcément.
Et puis ça prouve à quel point on en a marre d'avoir tout le temps les mêmes merdes qui cartonnent au box-office. Genre,
au cinéma,
ça intéresse plus personne
les
en fait.
Annonces, mec,
c'est vrai que les bandes annonces, ça a vraiment perdu de ses super.
Voilà, là.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu une bande annonce où je me suis dit putain, ça me donne. Là, c'est vraiment l'art de la bande annonce, quoi. ça s'est grave perdu.
Ouais, et puis même en dehors de ça, du coup, plus largement, au niveau des styles musicaux, enfin, au niveau des sonorités que tu choisis aussi, je trouve que tous les partis pris du hip-hop et de la trap et des trucs comme ça, maintenant on entend ça partout, même dans des musiques de films, dans n'importe quoi, t'auras genre, tu prends un morceau culte de Taylor Swift qui vient de sortir, ça va être un gros beat de trap derrière, alors qu'elle chante comme une chanteuse de pop, tu prends la BO de Black Panther par exemple.
L'ajout de hip-hop dans le film, ça a souvent été un cliché des fois.
Ouais.
Quand on voulait parler des jeunes ou alors. Certaines des quartiers défavorisés, des choses comme ça.
De communauté, ouais.
Maintenant, c'est un peu rentré dans la pop culture générale.
Et c'est plus forcément maintenant, tu peux faire un western avec un gros beat de rap, ça a été fait d'ailleurs.
Grave, même dans Django, il y a un gros son de.
Et Django, c'est
plus, et tout, je crois.
C'est plus un hommage à la blaxploitation et du coup au western spaghetti et tout, mais du coup, il a mis du Rick Ross, du Tupac et compagnie, même
James Brown. Ouais, il y a du Tupac dedans.
Ouais. Ouais,
Tupac X James Brown, justement. Ouais, il y a une sorte de mash-up.
Tous ces styles-là, non plus, ils sont plus cloisonnés à ce à quoi ils étaient cloisonnés avant, et maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé.
Mais ça montre que c'est rentré vraiment dans la pop culture, et c'est plus nos parents qui disaient ah ouais, le rap, yo-yo. Et tout machin, bah non, le rap cliché, maintenant c'est partout, tu vois. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, Taylor Swift, elle a des beats trap et, voilà. Et elle la trappe jusque dans les dernières productions Marvel, etc.
Et dans des musiques de films, maintenant, même je pense, il me semble que dans le Star Wars, la Boba Fett, je crois que ça reste Ludwig Göransson en fait, c'est qu'il a ses parties pris un peu, mais voilà, c'est un blanc, enfin je sais pas de quel pays il vient, mais clairement il a
un peu scandinave, non ?
Je pense, ouais, voilà. Et ça, voilà, et il prend ses influences dans tout type de musique, dont le hip-hop, et du coup il arrive à reformer ça, même à adapter ça à de la space fantasy ou
ouais, et pourtant quand tu regardes Boba Fett, tu te dis pas oh, putain, on dirait du rap, tu vois,
c'est pas pour faire un cliché en mode ah bah lui c'est un gangster des cités, tu vois, c'est pas du tout.
Ouais, okay, bah heureusement,
dans le cinéma, ça reste
un peu ça dans Boba Fett pour le coup.
C'est de la mafia plus.
Bah oui, mais c'est un peu le truc de, tu sais, il a son quartier, il a son palais, tu vois, genre il faut tenir le.
Ouais, mais je trouve que quand t'entends la BO, tu fais pas ah ouais, ok, d'accord.
Non, mais pour le coup, ça a du sens un peu avec
l'histoire.
Mais c'est propre d'un compositeur de trouver du sens entre ce qui.
Et puis Star Wars, c'est toujours, on s'inspire de tous les trucs, enfin un gros mashup et on.
Dans le cinéma, ça reste.
On parle d'une des pires séries Star Wars.
Ça reste bien intégré, je trouve, quand même. T'auras toujours des compositeurs et des réals qui vont avoir des bonnes raisons d'y intégrer ça au service de l'histoire, etc.
Oui, ou tu vois, il y en a qui vont surfer sur des vagues, genre,
mec,
on fait Tactics
5
et
j'allais exactement parler de ça. Genre, à la télé, par exemple, genre, les gros clichés, quoi. Genre, il y a typiquement dans des reportages ou sur
ouais,
la télé.
La télé, pour moi, c'est vraiment
genre, vraiment
le
télé,
média de boomer,
tu vois. Télé jeune reportage qui va faire un peu internet, vidéo rap, tout ça et tout, bah alors là, on va te balancer le vieux hip-hop derrière en son, ou alors un reportage à Biarritz sur les profs de surf, tout ça, on va te mettre les Beach Boys derrière et tout.
Ouais.
Et il y a un énorme écart entre différents supports.
C'est parce à nos darons, quoi.
Mais exactement.
Non, mais c'est surtout que c'est fait par
des darons.
Oui, c'est fait par des darons. Ouais, on pense s'adresser aux jeunes, alors qu'en fait, ils s'adressent à ce que. Enfin, c'est comme le vieux cliché. Il y a un film avec Steve Buscemi où il joue le rôle d'un lycéen. Et
oui,
c'est devenu un mème carrément. Et là, il fait ouais, les jeunes, c'est
Fellow Kids.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, oui, c'est des vieux qui pensent écrire pour des jeunes, alors qu'au final, ils écrivent pour.
Et ça, c'est à chaque fois, c'est. Pète un plomb, quoi, genre vraiment, c'est limite, ils vont dans un studio filmer, faire un reportage sur des jeunes rappeurs qui font de la trap et tout, et derrière, t'entends le petit son avec du scratch en mode ouais, années 90, tout ça,
mais
genre
encore une fois, tu vois, ça
et c'est ouf, quoi.
Ça genre, montre que les gens. Ouais, mais ça montre qu'ils n'ont aucune connaissance de ce
ah bah
qu'on
ouais,
se
ouais,
parle,
ouais,
tu vois. Et je pense que si un gars avait sorti un film comme Les Misérables, sans forcément venir de banlieue, mais sans se renseigner sur ce que c'est, bah du coup, on aurait eu un truc un peu risible de la sorte, tu vois. Moi, je pense que même si. T'es pas légitime parce que tu viens pas de machin ou tu n'as pas vécu ce truc-là. À partir du moment où tu fais un bon taf de documentation, que tu rencontres des gens et que tu comprends, même si t'as pas forcément vécu, que tu comprends ce que c'est, t'es déjà plus légitime qu'un mec qui dit « Ah ok, on va faire un film de banlieue, bah ok, on va prendre des rappeurs, c'est un jeune rappeur et il se retrouve dans une histoire de deal. » Et enfin, là, je sors tous les clichés qui me passent par la tête, mais pourtant, il y en a des films comme ça. C'est là que tu vois vraiment le bon et le mauvais côté de la chose, quoi.
Totalement. Martin, comme d'habitude, tu nous as préparé un petit jeu.
Ah, j'ai hâte.
J'ai trop hâte.
Ouais, bah du coup.
Martin, légitime à rapper ou pas?
Bah, tu vas voir que non. Il y a pas forcément besoin de légitimité, faut juste être bon. Et je ne le suis pas. Et non, bah du coup, j'ai préparé un petit jeu gênant. Cédric est compositeur et m'a envoyé un petit beat fait de ses douces mains. Et donc voilà, j'ai rappé des petits synopsis de films.
Putain, incroyable.
Par-dessus. Et voilà, donc il y en a 4. Et donc on va compter les points et puis il va falloir que vous deviniez les films. Il y en a un qui est obvious et après vous allez peut-être en chier.
Ok.
Donc écoutez bien.
Okay. L'astronaute déployant ses ailes vole. Le cow-boy non jamais lui ne décolle. Dans la penderie la réunion se forme. Nos héros établissent leur plan contre l'homme. À la fin du jour dans la chambre calme, les héros souris n'ont aucune alarme. Et par l'amour, la joie et l'infini, leur histoire est ainsi, tout est dans le titre.
Ok, je vais le remettre.
C'est pas Cowboy et Envahisseur?
Non.
Seul sur Mars?
C'est ignoble.
Oh ouais, de ouf. Ouais, on dirait une sorte de mec, fauve bizarre.
Ah mec, je l'ai fait. J'ai pas envie de... Fauve. Je l'ai fait en une prise.
Ah ouais, non.
Mais... J'ai fait, vas-y. Bon,
t'inquiète.
Ah, je l'ai pas, ouais.
On l'a remis.
L'astronaute déployant ses ailes vole. Le cow-boy non jamais lui ne décolle. Dans la penderie la réunion se forme. Nos héros établissent leur plan contre l'homme. À la fin du jour dans la chambre calme, les héros souris n'ont aucune alarme. Et par l'amour, la joie et l'infini, leur histoire est ainsi, tout est dans le titre.
En fait, c'est le côté joyeux, amour et tout que je comprends pas. J'étais
la penderie et tout, Narnia. Putain, à chaque fois que je pense à un truc, un élément, bah il est pas du tout dans le reste du texte. Ouais. Et du coup,
tout est dans le titre, je pense. Ça, c'est un... Tout est dans le titre.
Bah, allez, on va se la remettre une troisième fois pour.
Ils sont contre les humains, du coup. Genre,
Ouais, contre l'homme.
Et dans. Il y a un astronaute qui vole dans l'espace. Donc c'est.
Il y a un cow-boy aussi, non?
Oh, Gardien de la Galaxie.
Nope. Non, mais non. De Jordan Peele. Jordan Peele, non? Non,
un cow-boy et un astronaute, mec.
Firefly, série
Netflix.
C'est pas Cowboy versus Alien avec Daniel Craig.
C'est pas dans l'espace, tu vois.
C'est si obvious.
Ouais, mais tu sais, vu qu'il y a des
aliens. Moi, je trouve de ouf, là. Vous avez...
Un cow-boy et un astronaute.
Oui.
Juste ça.
Oui.
Ah, c'est Star Wars, c'est Han Solo, là.
Non.
C'est pas Interstellar.
Non.
C'est un putain de Texan, McConaughey. Hein.
Retour à le futur.
Non.
Cowboy. Attends, c'est un cow-boy et des gens dans l'espace.
Ça va, c'est deux époques totalement différentes.
Ah putain, Toy Story,
oui.
Ok.
Ah putain.
Dans la chambre et tout, le placard, ok.
Ah ouais, t'es bon.
Bien joué.
Okay.
Bien vu. Ok, je vais en faire des cauchemars, mec,
de ça. Horrible.
Allez, on balance la deuxième.
Gros,
c'est la même instru, du coup?
Ouais, c'est tout dans la même.
Ah, okay.
Il y a un gros, un moment, mec, c'est ignoble, je me souvenais pas que c'était comme ça.
Ah ouais.
Ouais,
mais est-ce qu'on pourra la mettre en outro, plutôt que de mettre le générique, on pourra juste remettre... on mettra en outro, on mettra juste...
Merci d'avoir écouté,
on mettra juste
Balabre.
Dans la jungle, l'action démarre en force. Notre héros, un guerrier sans remords. Explosion et fusillade dans la nuit. Un homme contre l'armée, son destin qui le fuit. Soldat d'élite, muscle d'acier. Chasseur de l'ombre, prêt à tout renverser. Sa fille kidnappée, vengeance à l'horizon. Course contre la montre, la jungle devient son pardon.
Sa fille kidnappée.
Kidnappée dans la jungle.
Moi je pense à Lost City of Z, je sais que c'est un film que tu kiffes, non. Mais il n'y a pas de kidnapping.
Ouais, c'est pas Tarzan, c'est pas Indiana Jones. Sa fille kidnappée.
La jungle, c'est une image?
Non, c'est, donc, c'est la reine du film.
Sa fille, c'est pas Taken? Fille kidnappée.
Avatar.
Il n'y a pas de fille dans Avatar.
C'est années 80.
Commando.
Oh!
Avec Schwarzy. Okay. Si.
Bah oui, ça
fille. Je l'ai vu avec toi, Commando, en plus.
Et c'est pas jungle tout du long, quoi. Genre.
Ah bah il encule pas mal de gens dans le film.
Et il y a série aussi, j'ai pas dit. Il y a aussi série, il y a pas que film, il y a série.
Ouais.
Ah.
Donc okay. Le prochain c'est une série. Okay.
Aux États-Unis, des enfants sans filtre, un humour noir vraiment scatologique. Hein. Au premier plan, le gamin malicieux, manipulateur que de plans vicieux. Par la suite, le duo réaliste, aventure insensée relant d'humanisme. Enfin l'immortel dédié à mourir. Série satirique, humoristique.
On le dit en même temps du coup?
Ouais, à 3. 1, 2, 3,
South Park. Enfance, Kato, moi j'ai direct capté que c'était South Park.
Et puis série, Amérique, genre tout ça.
J'avoue qu'au final tu l'as un peu le vendu le truc de la série.
Ouais.
On aurait plus galéré.
J'aurais galéré, ouais. C'était pas ça.
Sorry.
Dans ce film, seulement guerre et chaos. N'arrive que des bas, jamais de haut. Marine dans le tourbillon, l'enfer les inonde. dans cette jungle terrifiante au bout du monde. Quittant la mère patrie, l'entraînement est brutal. Baleine mécanique, veste de métal. Vietnam, jungle mystérieuse et sombre. Cette guerre ne s'est pas gagnée grâce au nombre.
Apocalypse Now.
Ouais, Apocalypse Now.
Non, full metal jacket.
Ah, bien.
Baleine.
Oui, la baleine, putain, de ouf.
Bravo, Maël. Oh là.
Et c'est parti, parti.
Bravo, Maël.
Bah, très stylé, franchement.
Et bah, mec,
heureusement que tu fais des podcasts.
Big up. Par contre, big et up, on est dans le thème, on est dans le thème du rap. On est vraiment dans c'est le thème vrai. Du rap. Et ça, pour ça, en termes de créa, le duo Cédric Martin pour faire du rap, il est incroyable. Hein. Voilà. Il y a eu un gros taf de la part de Martin en termes de mixage et tout.
Release the private. The private.
Et on mettra en outro, plutôt que de mettre le générique de Palabre, on mettra en outro la version sans vocodeur pour le plaisir de vos douces oreilles.
N'hésitez pas à le reprendre sur TikTok, faire des petites trends. Ouais.
M'afficher, à m'afficher.
TikTok.
All right, bah merci Martin pour
merci ça. Martin, de rien, c'était...
J'ai perdu, hein. Clairement j'ai rien trouvé.
Ouais, j'avoue, Cédric.
Cédric,
On peut rappeler les scores là, s'il vous plaît.
Bah 3-1.
Ok, merci. Pour qui ?
Maël. Donc Cédric et Léandre, Cédric et Léandre la tournée.
Allez.
Bah non, c'est lui qui a perdu, du coup, il a 0.
Non, parce que c'est les deux perdants du jeu.
Il y a deux jeux, ouais.
Maël, t'as pas quelque chose à rajouter
Bah après la masterclass qu'on vient d'entendre, je t'avoue que je suis un peu, j'en perds mes mots quoi. Genre, j'aimerais juste qu'on reprenne 5 minutes pour tout réécouter comme
non,
ça.
Non, on va pas le mettre, il sera pas diffusé, vous entendrez.
Allez,
pas
c'est parti.
Le cowboy, le cosmonaute,
l'astronaute.
On dirait un débit mental qui parle, mec.
On dirait la classe du pays qui font un atelier rap.
Ah, c'est que j'ai trop de mal à me concentrer sur la musique et les paroles et à
trouver
le truc.
Le choc.
Ah, moi, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça de ma vie.
Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric et du coup Maël. Bah, on espère que c'était agréable à écouter et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars.
Salut Cédric.
Salut Cédric.
Merci l'équipe, merci pour votre
merci invitation.
Merci à toi Maël.
Merci beaucoup Maël. À très vite.
P-A-L-A, brr, Palabre, brr, disponible sur toutes les plateformes, let's go, brr.